Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. Bienvenue Véronique Receveur-Bréchaud. Merci d'être revenue avec nous car nous avions beaucoup de choses à dire. Et si tu veux bien, on va d'abord on va rappeler que tu es chercheur, que tu es docteur en biologie, que tu es directrice de recherche au CNRS, voilà. Et puis lors de la première émission, on s'était posé la question qu'est-ce que la vie ? Question très difficile, comme tu l'avais dit. Et puis, tu as donné quelques repères, la naissance de la Terre, etc. etc. Et on s'est posé aussi la question, où est apparue la vie ? Et tu as donné donc plusieurs hypothèses. Ce sont des hypothèses sur lesquelles on travaille, mais ça reste quand même des hypothèses. Bon, alors, continuons, si tu veux bien. On a parlé de remonter des êtres et tu m'as parlé de Lucas.
Oui, Lucas. Oui, quand on étudie les origines de la vie, il y a deux stratégies. C'est soit on remonte le temps, et c'est souvent le travail des géologues et des paléontologues, mais ça peut être aussi le travail des généticiens, des biologistes, qui vont regarder un petit peu tous les gènes qui codent, qui sont les plans de fabrication des organismes vivants. Notre génome, et en comparant tous les génomes de tous les organismes vivants, on s'est aperçu que on était tous cousins, y compris avec les bactéries, y compris avec que ce soit avec les plantes, les animaux, les plantes, les bactéries, même les virus d'ailleurs, et on avait probablement, on descendait tous d'un même organisme, d'une même cellule. Et cet ancêtre commun à tout le monde, on l'a appelé Lucas pour Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel, qui est notre arrière-arrière-grand-père à tous.
Oui.
Arrière-grand-mère d'ailleurs. Hein. cette cellule qui est une construction. Comment dire scientifique, hein, qui n'est pas... Elle a pas existé, mais c'est plus... quand on prend le plus petit dénominateur commun de tous les organismes vivants existant actuellement sur Terre, on définit comme ça. C'est un concept, voilà, exactement. Voilà. C'est un concept. On définit ce Lucas qui serait notre ancêtre commun à tous. Ça ne veut pas dire du tout que c'est la première cellule, loin de là.
Alors, justement, j'ai lu quelque part, ne pas confondre Lucas avec le premier organisme vivant.
Tout à fait.
Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux ?
Lucas, c'est notre ancêtre commun. Mais il y a très bien pu y avoir d'autres formes de vie qui ont disparu.
Ah, d'accord.
Et auxquelles seul Lucas a tenu le coup, a résisté par rapport a pu s'adapter aux conditions qui prévalaient à un moment où ça a changé, et où les formes de vie, la vie, elle a pu apparaître de plusieurs manières. Il y a eu des essais et erreurs, et puis il y a eu des erreurs, des choses qui n'ont pas été pérennes, et puis il y a Lucas, ou ses ancêtres aussi, hein, qui ont réussi à se faufiler, et à s'adapter, et à résister, et du coup, il ne restait plus que ça, et c'est ça qui a évolué. Et puis après, quand il y avait cette forme de vie-là, elle a pris un peu la place de tout le monde, et les autres n'ont plus pu se développer, probablement.
D'accord, ok, je comprends. Très bien, alors, la question qui se pose maintenant, on a parlé de la vie, mais comment passe-t-on de l'inerte au vivant ? Ça, est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus ?
Ah, ça aussi, c'est une vaste question. On sait des choses. On ne sait pas tout, loin de là, hein. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de travail. La vie, elle a besoin de matière carbonée, elle a besoin d'eau. Donc ça, on a vu qu'il y avait de l'eau depuis plus de 4 milliards d'années. Alors, les briques élémentaires, ça va être les acides aminés, par exemple, qui sont les constituants des protéines. Mmh. Protéines, on en entend tous parler, hein, c'est marqué sur les boîtes de choses qu'on mange, protéines, glucides, lipides, Les protéines, c'est tous nos petits soldats de la cellule. Il y a celles qui catalysent les réactions, c'est les enzymes, celles qui servent de structure comme la kératine ou le collagène qui nous permettent de structurer la peau, par exemple. Celles qui nous défendent, c'est le système immunitaire, c'est les anticorps, ce sont des protéines aussi.
Elles ont toutes des fonctions différentes.
Elles ont toutes des fonctions différentes. Il y a des messagers aussi, comme l'insuline, par exemple, des hormones. Elles ont plein de rôles. C'est elles qui agissent dans la cellule et qui remplissent leur rôle, qui permettent à la cellule d'avoir son métabolisme, de dupliquer l'ADN, de le lire. Chacune a son rôle défini et elles servent à tout dans la cellule. Et donc, pour fabriquer les protéines, il faut des acides aminés. C'est les petites. Une protéine, c'est comme un collier de perles. Et puis, à chaque perle, c'est un acide aminé. On en a 20 différents. Oui. Hein. Typiquement, pour fabriquer des acides aminés, on s'est aperçu. Et alors, c'était Miller, en 1953, qui a fait une expérience, qui avait dit on va voir si on mime les conditions de ce qu'on appelle la soupe prébiotique. On considère que la Terre, elle était, c'était un peu comme une sorte de soupe. Mmh.
La soupe prébiotique, c'est exactement ce qu'on a dit.
Est-ce qu'on arrive à faire fabriquer les premières briques du vivant ? Et il a mimé ça, il a fait pris un ballon en verre, là, il a mis de l'eau, et il a fait surmonter ça d'un peu d'ammoniac, du méthane, une atmosphère telle qu'on imaginait qu'elle était à l'époque des premières années de la Terre. Et il a mis à chauffer un petit peu, parce que la Terre était chaude. Il a mis des arcs électriques pour créer des éclairs, justement, parce que il y avait beaucoup d'orages. Puis elle était hostile, a priori, hein, la Terre, à cette époque-là. Mmh. Il y avait beaucoup de bombardements de météorites. Enfin, c'était impressionnant. Hein. Et puis, il a fait tourner ça quelques jours. Et puis, au bout de quelques jours, il s'est aperçu qu'il y avait un dépôt au fond de son ballon. Il l'a analysé. Il a vu qu'il y avait des acides aminés qui s'étaient formés. Donc, ça veut dire que les conditions de la Terre... initial, dans ces conditions-là, il y a des briques élémentaires du vivant qui peuvent se fabriquer. Mmh. La chimie permet ça. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des météorites qui nous tombent régulièrement dessus. Et sur ces météorites, on les a analysées, on trouve aussi des acides aminés, on trouve on en trouve même parfois. Bon, nous, on en a 20. Sur la météorite de Murchison, il y en a 70, par exemple. Mmh. Il y en a plein qu'on n'utilise pas. Qui font pas partie des organismes vivants qui a sur Terre. Il y a aussi ce qu'on appelle des bases azotées qui sont des constituants élémentaires de l'ADN, par exemple, ou de l'ARN. Donc, ces petites briques-là, elles se font grâce à la chimie qu'il y a sur la Terre à cette époque-là. On en trouve aussi sur les météorites. Mmh. Donc finalement, ça, c'est pas très compliqué.
Alors, je crois savoir, tu vas me confirmer, que Miller a fait ça en 1953, mais il y a eu d'autres expériences avec des constituants peut-être légèrement un peu différents.
Oui, en fait, il a beaucoup été critiqué parce qu'on a dit « Ah, mais finalement, les conditions de la Terre, c'était pas tout à fait ce qu'il a testé, donc ça, son expérience, elle est pas valide. » Et puis il y a plein de gens qui ont reproduit ça dans d'autres conditions, et puis on arrive régulièrement à obtenir d'autres choses, donc... finalement, fabriquer ces petites briques, j'ai envie de dire presque, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est plus, ce qui questionne beaucoup plus, c'est comment on est passé de ces petites briques aux macromolécules, c'est-à-dire les grosses molécules du vivant. Et ça, c'est, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Autant parce qu'à l'époque du Miller, on s'était dit ah ben voilà, on arrive à faire les premières briques, c'est bon, fabriquer la vie, c'est pas compliqué. Mais en fait, pas du tout.
En fait, ces briques là, c'est pas de la vie.
Non, c'est loin d'être de la vie. C'est des briques, mais ça fait pas une maison avec.
Bien sûr.
Donc arriver à partir de petits acides aminés, arriver à faire des peptides ou une protéine, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et arriver à faire des acides nucléiques, c'est-à-dire des ADN ou des ARN, on va en parler, on n'y est pas du tout encore. On a des pistes.
Ah, quelles sont-elles ?
Alors, déjà, on se retrouve face au problème de l'œuf et de la poule. qu'est-ce qui est apparu en premier comme macromolécule? Est-ce que c'est les protéines qui permettent de catalyser les réactions? Ou est-ce que c'est l'ADN ou l'ARN, ces macromolécules qui contiennent toute l'information génétique, l'information pour fabriquer les protéines? Donc,
et la pour fa- la poule,
voilà. Pour fabriquer, pour lire cet ADN ou cet ARN, il faut une protéine, mais pour fabriquer la protéine, il faut cet ADN ou cet ARN. Donc là, on est un peu coincé. Et ce dilemme-là, il a été résolu quand on a découvert des ARN qui étaient capables de catalyser des réactions au même titre que des protéines. Et ça, ça voulait dire que, au début, pour catalyser les réactions, il n'y avait pas forcément besoin de protéines, ça pouvait être fait par des ARN.
D'accord, ok.
Voilà. Et comme en plus, l'ARN, c'est une molécule qui était là, qui est plus simple, qui est l'ancêtre de l'ADN, en fait. ARN, ça veut dire acide ribonucléique.
Oui.
ADN, c'est acide désoxyribonucléique. En fait, c'est on a enlevé un oxygène sur le ribose. En fait, un ADN ou un ARN, c'est constitué d'un sucre à 5 carbones qui s'appelle un ribose. C'est le ribonucléique qu'on entend. Et sur lequel il y a 4 types de bases, les fameuses AT, GC ou AU, GC.
J'ai appris à l'époque.
Adénosine, thymine, uracile.
C'est ça. Voilà. Et justement, c'est la succession qui fait que...
C'est ça, c'est la succession de ces lettres qui va donner l'information, ça s'appelle le code génétique, pour fabriquer une protéine. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ACA qui va coder pour tel acide aminé, et puis cet enchaînement de lettres va donner la recette pour fabriquer une protéine avec l'enchaînement d'acides aminés qui va permettre de fabriquer une protéine. Un ADN ou un ARN, c'est rien d'autre que ça, hein. C'est un livre de cuisine, c'est dans lequel chaque recette, c'est un gène.
Oui, mais on sait le déchiffrer.
Aujourd'hui, oui, on sait le déchiffrer.
Oui.
Oui, oui. Donc, l'ARN, c'était l'ancêtre de l'ADN. Il y a même des théories, hein, Patrick Forter à Paris, à l'Institut Pasteur, qui dit que ce seraient des virus qui auraient inventé l'ADN pour échapper justement à leurs hôtes qui voulaient s'en débarrasser, parce que pour essayer d'éliminer le virus, ils avaient des protéines qui servaient à casser l'ADN, à l'ARN en morceaux, et pour y échapper, ils sont un petit peu modifiés pour se transformer en ADN.
Il y a un petit peu d'intelligence derrière ça.
L'évolution n'est pas forcément mue par l'intelligence, mais elle peut y aboutir, par contre.
Bon, voilà. Alors
et donc, l'ARN, a priori, c'était, de toutes les macromolécules, c'était celle-là qui était avant. Il y a eu l'ARN, ensuite il y a eu les protéines, et ensuite il y a eu l'ADN. Donc ça c'est ce qu'on a réussi à établir. Après, comment on fabrique l'ARN, ça c'est une autre question, parce que c'est une molécule qui est très complexe et qui en plus est relativement instable aux hautes températures, et on a tendance à dire que la vie serait apparue à haute température. Donc là, il y a beaucoup de recherches là-dessus pour essayer de voir dans quelles conditions le stabiliser. En fait, c'est le ribose, là, ce sucre à 5 carbones qui n'est pas stable. Donc, il y a des gens qui travaillent justement pour essayer de voir dans quelles conditions on peut stabiliser ce ribose pour justement arriver à fabriquer des ARN. Donc, fabriquer à la fois coller le ribose sur lequel on met des phosphates, parce qu'il y a un groupement, il y a des phosphates, et sur lequel on met donc ces fameuses bases A, T, G, C. Donc, il y a trois choses à coller ensemble, et après, il faut en coller plusieurs polymérisés, comme on dit, pour en faire les A, A, T, G, C, A.
Une chaîne complète.
Une chaîne, voilà. Mm-hmm. Donc, c'est toute la difficulté, elle est là. C'est à la fois condenser ces trois petites briques et ensuite polymériser ça. Et ça, c'est... déjà, il faut arriver à les condenser. Ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent peut-être que c'était... Avant l'ARN, il y avait peut-être encore autre chose qui a disparu. Ça c'est possible, hein, parce que on sait qu'il y a d'autres acides nucléiques qui... Il y a des gens qui se sont amusés à synthétiser des choses et de voir que ça pouvait exister. Hein. Il y a par exemple la NG, qui est un acide nucléique à glycol au lieu d'être un ribose, ou avec un tréose, c'est un autre sucre, au lieu d'être... Donc ça fait de l'ATN, acide tréose nucléique, tréonucléique. Il y a des tas de choses qui peuvent qui sont possibles, ou qu'on a trouvé un jour dans la nature, ou bien qu'on a essayé de synthétiser en laboratoire. C'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle la biologie synthétique. Donc, il y a des possibilités, en fait. On n'en aura probablement jamais la preuve. En fait, c'est en faisant des choses dans le laboratoire, on voit ce qui est possible.
Alors, tout ça, c'est pour fabriquer les fameuses macromolécules.
Voilà. Et probablement que les premières cellules, c'était... enfin, peut-être pas les premières, mais... avant Lucas, ou peut-être déjà Lucas, c'était des cellules à ARN, pas à ADN, ce qu'on appelle des ribocytes, comme ribose, voilà. Mais voilà, c'est pas très compatible avec l'origine chaude.
Donc, le cheminement, c'est la fabrication des briques, et ensuite la fabrication des macromolécules, qui elles-mêmes vont favoriser l'arrivée d'une cellule.
Oui, alors là aussi, la question, c'est comment compartimenter ça ? Parce qu'une cellule, un individu qui va se reproduire, il faut qu'il soit individualisé, individué. Et là, il faut qu'il y ait alors, a priori une membrane. Fabriquer les lipides, ce n'est pas trop, trop compliqué. Les lipides, c'est les constituants de notre membrane. Donc c'est, mais il faut, c'est quand même bien qu'il y ait des protéines ou des choses comme ça pour les fabriquer. Une autre hypothèse, c'était que les premiers mini-réacteurs, en fait, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est un mini-réacteur ?
Moi, j'appelle ça un mini-réacteur. C'est cette cellule, ces premières proto-cellules. Ça pouvait être tout simplement dans un trou dans une roche. Des micro-pores. Les premières réactions, elles ont pu se produire là. Après, on s'est aperçu qu'un mélange de lipides, d'acides gras avec des protéines ou des peptides et des acides nucléiques, ça pouvait former ce qu'on appelle des coacervas. Ce serait des protocellules, là aussi. Donc, c'est sûr, c'est que pour avoir ce métabolisme, cet échange avec l'intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, il faut qu'il y ait une frontière, une membrane. Et ça, c'est les lipides qui le permettent.
Alors, je me pose une question en t'écoutant. Est-ce que le fait de rassembler les différents constituants va créer une vie ? Il faut autre chose, non ?
C'est pas si simple que ça, quand même. Il y a des biologistes, Craig Venter, par exemple, qui s'est amusé à entre guillemets, dépouiller tout l'ADN d'une cellule et lui en remettre un autre. Et puis surtout, lui enlever tous les gènes, on va dire, qui débordent, qui ne semblaient pas utiles, et de lui mettre vraiment le génome minimaliste qui permettait de se développer. Ça marche, mais c'est pas... C'est pas optimal. Donc, c'est quand même pas si simple que ça. La vie, elle est quand même très complexe et on a encore des progrès à faire avant de jouer l'apprenti sorcier, on va dire.
J'ai lu quelque part qu'on a réussi, pour des souris, à créer des gamètes synthétiques. Est-ce que tu as entendu ? Ou est-ce que c'est un fake news ? Ou alors est-ce que c'est vrai ?
Ça, je ne sais pas.
Moi, ça m'a paru bizarre, parce que si vraiment on est capable de créer des gamètes, on est proche de créer la vie.
Ben, on la crée pas, on la reproduit.
On la reproduit. Voilà, synthétique. C'est ce que disait l'article.
Oui, mais les gènes, les chromosomes, c'est pas des trucs tout neufs, là.
C'est possible.
Créer, ça veut dire un nouvel organisme avec des fonctions différentes... Après, bon, c'est une forme de gestation différente, là. En fait.
Oui. Bon. Alors, est-ce qu'on... Oui, tu as déjà peut-être un peu répondu. Est-ce qu'on fabrique de la vie en laboratoire ?
Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Enfin, quand je dis encore, c'est peut-être même de trop.
Alors... Il nous reste un peu de temps encore, oui, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Est-ce qu'on pourrait parler de ça, de la vie dans l'univers ?
Oui.
Voilà.
Oui, on peut déjà parler de ce qu'on avait abordé vaguement, la panspermie. Est-ce que la vie est apparue, elle vient de l'univers, elle vient d'ailleurs ?
Tu viens d'employer un mot, tu veux le définir ?
Panspermie, oui.
Voilà, ça veut dire ?
Alors, la panspermie, c'est une théorie qui dit que, la vie, elle n'est peut-être pas apparue sur Terre, elle est apparue ailleurs dans l'univers, et après, elle est allée ensemencer la Terre.
Bon.
Ça, c'est ça la théorie de la pensée permis. C'est une idée qui est très vieille, en fait, qui vient du fait que, quand on regarde les théories des idées, l'évolution des idées scientifiques, c'est très intéressant, parce que, par exemple, pendant très longtemps, il prévalait l'idée de la génération spontanée, qui avait été développée par Aristote.
Avant Pasteur.
Voilà, avant Pasteur, et puis qui a été soutenue par Descartes, après. Et puis... c'était normal à cette époque-là qu'il y ait des moisissures qui apparaissent, ou même des souris au milieu des grains qui apparaissent, c'était la génération spontanée. Et puis Pasteur est arrivé, et il a démontré que c'était pas vrai, que la vie, elle n'apparaissait pas comme ça. Et du coup est venue l'idée, mais si elle n'apparaît pas comme ça, d'où elle vient ? Bah de l'univers. Et c'est à partir de la seconde moitié, à la fin du 19e siècle, à ce moment-là, où il y avait même dans la littérature hein, beaucoup d'extraterrestres. Quand on regarde les Sélénites de Jules Verne ou H.G. Wells, enfin, il y a beaucoup de littérature qui dit qu'il y avait des extraterrestres à cette époque-là. Et même Lord Kelvin, qui était un très grand scientifique, ça a été soutenu par des très très grands scientifiques, hein, ou même plus récemment Stephen Hawking.
Mais est-ce que, en disant la vie peut être venue des extraterrestres, est-ce qu'on recule pas la question ? Parce que qui a créé la vie ?
Ça déplace la question, ça n'y répond pas.
Voilà.
Et puis, j'ai envie de donner la même réponse qu'avait donné Laplace à Napoléon quand il avait présenté à Napoléon sa théorie de la mécanique céleste. Et puis, Napoléon lui a dit « Oui, mais et Dieu dans tout ça ?» Et Laplace, il avait répondu « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse.
» Exact. Voilà.
Et ben pour la pensée permis, j'ai envie de dire, c'est pareil. On n'a pas besoin de cette hypothèse. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les briques du vivant, elles peuvent apparaître sur Terre spontanément, ou ne serait-ce qu'avec, effectivement, de l'univers, mais uniquement des briques élémentaires du vivant. Et après, on voit qu'il y a des moyens, ça reste encore difficile, mais probablement des moyens pour fabriquer la vie sur Terre. Donc, peut-être qu'elle est apparue de l'univers, mais il n'y a pas besoin de ça, forcément. Mmh. Puis accessoirement, dire que ça vient de l'univers, ça se heurte quand même à des... y a un rayonnement ionisant qui est très fort, l'ultraviolet, des rayons gamma, des rayons X. Y a des expériences qui ont montré qu'il y a des bactéries ou des petits organismes vivants, des tardigrades, c'est des sortes de petits insectes, qui sont très très résistants, notamment au rayonnement ionisant qu'on a mis en dehors de la station spatiale internationale, qui survivent quelques jours, plusieurs semaines. Mais de là à traverser l'univers, il faut plusieurs centaines de millions d'années pour aller d'une planète à une autre, d'un système solaire à une autre. En restant vivant, il y a peu de gens qui y croient aujourd'hui.
Ah bon, d'accord.
Parce que ça va être détruit par toutes ces conditions drastiques. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois à la limite, mais plusieurs millions d'années, là, ça paraît pas possible.
Donc c'est une hypothèse
peu probable.
Peu probable.
Ce qui n'exclut pas la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers.
Alors justement, on en vient. Et voilà. Justement, bon, je t'ai parlé d'un article que j'ai lu, mais que tu connaissais depuis longtemps, toi, pas moi. C'est l'histoire de Titan, qui est la lune de Saturne.
Voilà, ben, Titan, il y a des lacs de méthane dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a une chimie carbonée qui fait que bah, peut-être qu'il y a une chimie biologique plus sophistiquée. Alors, le méthane, c'est quand même très stable comme molécule s'il n'y a pas d'oxydation, justement. Donc, il n'y a pas d'eau sur Titan. Mmh. Donc, ça paraît... C'est pas le meilleur candidat. On se tourne plus vers Europe, par exemple, qui est un satellite là aussi qui est complètement recouvert de glace. Sur Terre, on a dans l'Antarctique là, on a trouvé un lac d'eau douce enfoui sous des kilomètres de glace. On se dit que sur Europe, c'est peut-être pareil. Dans ce lac sur Terre, il y a des traces de vie. C'est un des satellites de Jupiter.
De Jupiter, d'accord. Peut-être.
Il y a Encelade aussi, qui a des geysers d'eau qui prouvent qu'il y a de l'eau sur ce satellite. comme il y a beaucoup d'énergie, il y a une tectonique, on se dit bah, peut-être qu'il y a de la vie qui a pu se développer là aussi. Mmh. Et puis évidemment, il y a Mars.
Mmh. Oui. Alors on dit qu'on y croit moins en ce moment, je ne sais pas pourquoi, hein, non, très honnêtement.
C'est surtout, donc Mars a eu les débuts de Mars ont été très semblables à ceux de la Terre au tout début du système solaire. Donc c'est pour ça qu'on se dit, si la vie est apparue sur Terre à ce moment-là, peut-être qu'elle est apparue également en même temps sur Mars. Alors la difficulté, c'est on peut commencer à regarder des choses en envoyant des rovers, mais quand on voit les difficultés qu'on a déjà pour analyser nos propres roches anciennes, on aura vraiment plus de réponses quand on pourra ramener des échantillons et les analyser avec... Oui. Parce qu'il y a des échantillons, enfin des roches qu'on a analysées avec des synchrotrons, avec des appareils extrêmement sophistiqués, qu'il est absolument exclu d'apporter et d'amener sur Mars, donc... Oui. Quand on pourra vraiment ramener des échantillons.
Des échantillons, là, on pourra le faire.
Okay. Voilà, exactement.
Mais c'est demain ou c'est après-demain?
Je ne sais pas. c'est en programme, alors après, on verra. Et puis après, évidemment, sur d'autres planètes en dehors du système solaire.
Oui. C'est ça, les exoplanètes?
Les exoplanètes, exactement. Et alors là, maintenant, on sait qu'il y a plein de planètes, là, ce qui n'était pas une chose acquise avant, hein, mais... Donc maintenant, on essaye de regarder s'il y a ce qu'on appelle des exotères, donc qui soient des planètes telluriques, donc avec un sol bien solide, pas des planètes gazeuses comme Mars ou Jupiter ou Saturne. Et puis, on essaye de regarder s'il y en a qui seraient à une distance de leur étoile, qui permettent qu'il y ait de l'eau liquide à leur surface. Alors les astronomes qui sont de grands enfants ont appelé ça la zone boucle d'or.
Ah ouais.
Parce que c'est la zone qui est ni trop près du soleil, parce que sinon il ferait trop chaud leur soleil, ni trop loin, parce qu'il ferait trop froid, et juste à la bonne distance pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, à la bonne température.
Il y en a trouvé quelques-unes comme ça.
Il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes. Donc après elles sont loin, donc avant qu'elles... Qu'on y aille, c'est pas possible, mais y en a.
Juste une dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps. On a parlé de l'évolution, on a parlé de l'intelligence. Et tu as dit, pas nécessairement pareil.
Alors, j'ai dit que l'évolution pouvait conduire à l'intelligence, c'est ce qui s'est passé, puisque on est là. Mais il faut garder à l'esprit que ça a mis beaucoup de temps avant d'y arriver, puisque... Toumaï, il date de... Toumaï, c'est le dernier hominidé qu'on a trouvé, 6 millions d'années. Lucie, la fameuse Lucie, c'est 3-4 millions d'années. Sur 3,5 ou 4,5 milliards d'années, c'était hier. Hein. Donc, il est possible qu'il y ait d'autres vies intelligentes sur d'autres planètes. La probabilité est quand même assez faible. Parce que nous, il a fallu attendre 3 millions d'années, 5 millions d'années pour que cette vie intelligente, telle qu'on a aujourd'hui, qui nous permet de faire cette émission de radio. Hein.
Exactement.
Donc avant d'arriver en contact avec une autre vie intelligente, là, la probabilité est très très faible.
Dommage, on ne peut pas rester avec une note meilleure, une note plus optimiste.
Après, on peut toujours y croire, mais il y a des chercheurs qui envoient des signaux dans l'espace, il y a des avec tout le programme SETI qui sont à l'écoute du moindre signal qui pourrait venir d'une intelligence extraterrestre. Donc c'est des travaux
mais quand
qui sont
on
sérieux,
pense
hein.
au temps par rapport à ce qu'on connaît des lois physiques, le temps nécessaire pour envoyer un message et revenir, c'est pas ceux qui l'ont envoyé qui vont le recevoir.
Non, tout à fait. Donc nous, on n'aura pas la réponse tout de suite, probablement. Parce que si des gens sont à l'écoute de la Terre, s'ils écoutent la Terre il y a ne serait-ce que milliers d'années, ils ne vont pas recevoir grand-chose. Si la planète, la leur, elle est surtout occupée par des bactéries ou des organismes simples, ou même des plantes, tout simplement. Pas beaucoup de communication possible. Mais qui sait.
Merci beaucoup Véronique Receveur-Bréchaud. On a appris beaucoup de choses grâce à toi, comme toujours d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup de ma part et puis de celle de nos auditeurs. Et bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.